Vous êtes sur RTL.
On a quand même envie de se mettre un peu dans l'esprit de Noël. Hein. Non, ça faisait longtemps. Laissez-moi vous servir une pincée de Noël.
Comme chaque semaine, après avoir poussé l'immense porte du bureau dont défait le monde pour préparer l'émission, la Dream Team s'est retrouvée autour du pain d'épices préparé par Céline et Laurent, pendant que Marie, Brice et Cyprien alimentaient en bûche le foyer de la cheminée qui réchauffait les cœurs et inspirait les esprits. Greg comptait ses cadeaux au rythme des chansons de Noël qui se jouaient sur la vieille platine vinyle de Stéphane. Vous êtes sûr que ça s'est vraiment passé comme ça? Et pas plutôt dans un open space bruyant avec un panini à moitié cuit et des débats musclés?
Si, si, mais je trouvais que ça sentait un peu plus la magie de Noël comme ça.
Ah, mais dans ce cas, il est l'heure de retrouver On défait le monde sur RTL. Saison 2, épisode 16. Cyprien Signy.
Ouh là là, ça donne le ton de ce vendredi soir.
Je suis sans voix.
Ouais, ouais. On va pas s'en mettre de celle-là.
C'est peut-être la dernière.
Cyprien Signy, Céline Landreau, Marie Mollet, Brice Dugénie, Laurent Tessier et Greg, donc aux manettes, notre magicien. Pour la suite de cette saison 2, vous réagissez, vous commentez, vous avez les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook, le compte Twitter, le podcast en fin d'émission sur notre site rtl.fr. Les amis, voici avec Cyprien le sommaire.
0 plus 0 égale les élèves français. Cette semaine, une nouvelle étude nous décerne le bonnet d'âne en maths et en sciences. Le jeune d'aujourd'hui est-il vraiment moins bon que celui d'hier? Pas si sûr. Mediapro et la Ligue de football, c'est fini. En écoutant On défait le monde, vous comprendrez pourquoi votre club de foot favori pourrait bien finir par accrocher les crampons. Le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, c'est carrément un hommage au génie français.
Oui, en pleine épidémie de coronavirus, faux départ pour les Français dans la course au vaccin.
Le billet retour de Brice du génie. Et ce soir, vous nous emmenez dans les coulisses de la fabrication d'un porte-avions nucléaire, un chantier pharaonique.
Oui, quand verrons-nous naviguer le successeur du Charles de Gaulle?
D'ici 20h, on n'oubliera pas de vous donner 3 infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, vos projets complètement fous nous emmèneront pour la bonne cause sur le parcours du Tour de France 1930. Enfin, plus de les nouvelles sont mauvaises et plus on vous offre de gros cadeaux. Autant vous dire que là, donc on est pas mal, hein, puisque ce soir, on vous fait carrément gagner une semaine au ski pour 4 avec les forfaits, le matos, la totale. Et évidemment, le cadeau est valable toute la saison. Vous n'êtes pas obligé d'y aller quand c'est fermé. Le jeu, ce sera vers 19h40, hein, je vous connais. On défait le monde, saison 2, épisode 16.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
Fait le monde dans RTL Soir.
On y va pour le surf, c'est le surf de la semaine, c'est avec Cyprien bien sûr.
Et cette semaine, j'ai un peu envie de vous dire...
Ouais, bon année !
Le réveillon du 31 ! Ça sera pas comme ça, non. Ce sera couvre-feu et c'est pas plus mal, diront certains. Après hier, pendant sa conférence de presse, Jean Castex a quand même délivré cette astuce pour les indécrottables du nouvel an.
Si vous me dites, est-ce qu'on ne pourra pas inviter quelques personnes chez soi qui arriveront avant 20h et qui partiront après 6h? Oui, ce sera possible.
Hey, Jeannot est donc un adepte, un initié de...
Dépêche-toi d'attraper ton pyjama préféré et on va te dire comment transformer ta soirée pyjama en l'événement le plus brillant du quartier.
De la soirée pyjama, Castex et compagnie pour une soirée pyjama réussie. Concept totalement relancé en cette fin d'année 2020. Une année éprouvante pour Ségolène Royal, qui nous a fait une semaine de compète. Elle avait commencé sur Sud Radio au moment d'évoquer le fameux Beauvau de la sécurité, place Beauvau, le ministère de l'Intérieur évidemment.
Beauvau, alors je vais expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi Beauvau. Mais voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent que c'est qu'un veau, qui est beau. Oui.
Ouais, ouais.
Mais, donc voyez,
on ne voit pas du tout en fait. Bon, elle a poursuivi avant-hier sur RTL.
C'est comme quand le ministre de l'Intérieur vient sur les plateaux de télévision pour annoncer qu'il va fermer des mosquées. S'il a des indications, il les ferme, mais il ferme aussi sa bouche. Pendant qu'il ferme les mosquées.
Ouais, non, en fait, on voit toujours pas les temps roue libre. Hein. Une année compliquée aussi pour le sympathique Jérôme Salomon, le gars que le gouvernement envoie au feu à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle annoncée.
La deuxième vague progresse toujours.
Monsieur, mauvaise nouvelle, Jérôme la déprime quand on écoute le patron de la région PACA, Renaud Muselier, qui n'en peut plus de le voir.
En tout cas, ma première remarque, c'est que chaque fois que je vois apparaître le professeur Salomon, c'est un message de tristesse, de désespoir et de fermeture de la lumière qui est au bout du tunnel. Quoi. Depuis le mois de février, depuis chaque fois qu'on le voit, qu'on l'entend, cet homme, il nous annonce des horreurs.
Il n'en peut plus, pas facile, de Jérôme Salomon qui se retrouve cette semaine en première ligne sur le fiasco des masques, une bonne tête de fusible, alors qu'on commence à se demander si le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne regarderait pas trop la télé en cachette. Oui, cette semaine, pour parler de vaccins, il a dit...
J'ai expliqué ça à mes enfants avec un dessin animé que je regardais quand j'étais gosse qui s'appelait « Il était une fois la vie ».
Référence au dessin animé pour expliquer le concept de vaccin.
Et avec le vaccin, on est complètement protégé. Alors on y va.
Ah bah oui, on va se gêner. Et deux jours plus tard sur les tests, autre référence.
N'utilisez pas le test comme une sorte de totem d'immunité.
En fait, il passe ses journées devant la télé, quoi. Je vous rappelle qu'en 2015, il avait aussi dit...
Les amendements en tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout dans les délais.
Et on peut dire ce qu'on veut de lui, mais Koh-Lanta, Les Inconnus ou La Vie, cet homme a des références totalement validées par le surf de l'info. Du coup, vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine, Cyprien Sini, notre surfeur dans On défait le monde.
RTL Soir, On défait le monde.
À 19h23, c'est la grosse info ce soir. Pour répondre à cette question, les petits Français sont-ils si nuls que ça à l'école?
Bah oui, on s'est posé la question avec cette nouvelle étude internationale, la fameuse étude TIMSS, qui dit que les petits Français sont nuls en maths et en sciences, bonnet d'âne européen. Et on a constaté qu'en fait, bah, quasiment chaque année, il y a une étude qui tombe pour dire qu'on n'est pas bon en anglais, en orthographe. Oh. Du coup, ma chère Marie Mollet...
Vous, c'est peut-être vrai, cela dit.
Oui, en orthographe, c'est vrai. Est-ce que c'était vraiment mieux avant?
Oui, vous la connaissez, hein, cette nostalgie de l'encre et du porte-plume, des tableaux noirs et des dictées savantes façon
Hormis
Bernard Pivot 85.
Un maître queue eczémateux et un sommelier grippé, virgule, serveurs et cuisiniers s'étaient rassemblés pour préparer la garden party du maître du château, virgule.
Voilà, l'image idéalisée des écoliers d'antan qui, au fond, seraient plus intelligents que ceux d'aujourd'hui. Eh bien, c'est une idée en partie fausse, parce que tout dépend des disciplines. D'accord, le niveau a baissé en orthographe et en mathématiques, mais il a augmenté en langue vivante, en histoire, en économie. Hein, aujourd'hui, un élève de 15 ans sait ce que c'est que l'inflation, c'était pas du tout enseigné dans les années 60, par exemple. Et à l'inverse, il y a des matières qui tombent en désuétude. Hein, c'est l'époque qui dicte les besoins pour Marie Durubella, sociologue, spécialiste de l'éducation et professeur émérite à Sciences Po.
En matière d'écriture, par exemple, les pleins et les déliés, il y avait des techniques de majuscules. Moi, j'ai appris les majuscules, le L, le H en majuscules, je ne saurais même plus le faire. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que certaines matières traditionnelles, comme l'orthographe, le niveau des élèves baisse, c'est vrai, mais les journées n'ont que 24 heures. Donc, si on fait en plus à l'école l'éducation, développement durable, d'initiation à l'informatique, ben voilà, il n'y a pas de miracle.
Plus de matière, donc il faut choisir. Et puis il y a aussi toute une part du savoir des élèves qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas comparer, comme l'informatique ou certaines qualités des élèves aujourd'hui.
Alors beaucoup d'enseignants un peu âgés nous disent bah oui, les élèves savent peut-être moins de choses, mais ils sont quand même plus éveillés, ils sont plus créatifs. On avait administré à des élèves de pré-fin de primaire les épreuves du certificat d'études. Eh bien, on voyait que les élèves étaient moins bons en orthographe, mais meilleurs en rédaction. Les élèves ont d'autres qualités, mais ça, voilà, c'est difficile à cerner, effectivement. Effectivement, on ne mesure que ce qui est facile à mesurer.
Et puis alors, il y a une autre idée fausse, Marie, le niveau moyen de la population n'a pas baissé.
Ah oui, si on regarde le niveau moyen d'une classe d'âge, en fait, il s'est considérablement élevé. Au fil du XXe siècle, on a scolarisé plus de monde et plus longtemps. Dans les années 50, on comptait 10% de bacheliers, le reste n'allait pas dans le secondaire. Aujourd'hui, on est à 80% de bacheliers et cela change tout pour Marie Durubella.
On voit que le niveau d'une classe d'âge en général s'est élevé, hein, parce qu'on a plus, beaucoup plus de gens qui restent longtemps dans le système scolaire, et même si certains diront « Ah, mais là, ils nous apprennent moins qu'avant, etc. », il y en a beaucoup plus. Imaginons, moi, ça m'a souvent frappé, le passage à l'euro dans les années 50, ça aurait été bien plus difficile. Là, on a des évolutions comme ça complexes, hein, changer de monnaie, qui sont facilitées par le fait que le niveau moyen des gens s'est considérablement élevé.
Alors, le niveau global a augmenté, mais attention, quand on parle des élèves, des écoliers, ce n'est pas un bloc... homogène et uniforme, il y a des très fortes disparités, des inégalités.
Quand on regarde le niveau des petits Français, les élèves les meilleurs qu'on a, nous, ils sont très bons. Ils sont très bons. On a vraiment de très bons élèves. Hein, alors qu'on a beaucoup d'élèves faibles et qui sont en plus originaires de certains milieux sociaux, ce qui nous permet d'atteindre un très haut niveau d'inégalité sociale entre les élèves.
Et on se rend compte que lorsque le niveau en orthographe baisse, c'est le niveau des élèves déjà en difficulté qui baisse en premier. Un système éducatif ne parvient pas à gommer ces inégalités.
Et vous étiez bonne en orthographe, non?
Moi, ça va. Ouais. Je savais écrire maître queue, comme dans la dictée de Bernard Pivot.
Eh ben, pas moi.
Et vous, pas du tout.
Pas du tout. Et je suis toujours mauvais.
Toujours.
C'est pour ça que je fais de la radio.
Ben oui, j'ai besoin d'écrire bien, vous voyez. Enfin, d'écrire proprement. Oui. Sans faute d'orthographe.
Il y en a qui arrivent quand même dans la
oui,
radio.
Bah, c'est mieux, effectivement.
Ah, d'accord. Oui.
Première info pour Broyer, c'est dans une poignée de secondes. La suite de On défait le monde. À tout de suite, il est 19h27.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Pile à 19h30 en ce vendredi, donc la première info pour briller au dîner, c'est avec Jedi Laurent.
Yes.
On en
fait. Un nouveau film. Fait plaisir, là. Ah, là je m'éclate, là, c'est génial. Un nouveau film dans l'univers Star Wars sortira à la fin de l'année 2023, Rogue Squadron. Et quand on parle de la guerre des étoiles, on pense à Dark Vador, les Jedi, les sabres laser, notre ami très poilu Chewbacca. Et puis il y a Yoda, petite et sage créature verte aux oreilles pointues, le plus grand Jedi de tous les temps et l'un des plus grands philosophes de l'histoire.
Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris.
Eh oui, car sauf au départ, Yoda n'était pas le prénom choisi, car le réalisateur George Lucas l'avait d'abord appelé Buffy. Alors c'est beaucoup moins classe. Le scénariste de l'Empire Contre-Attaque a eu la bonne idée de trouver Yoda. Alors soit cela provient du mot hébreu Yodéa, qui signifie celui qui sait, soit d'un mot d'une langue ancienne indienne, Yoda, qui signifie guerrier. Et sachez-le, le visage est inspiré d'Albert Einstein. Mais notre héros a failli ressembler, c'est là où c'est plus grave, à un schtroumpf. Il était au départ bleu, avec des petites oreilles pointues, une barbe blanche, un chapeau ridicule. Heureusement, nous avons Yoda tel qu'il est. Il est beaucoup plus crédible quand il déclare « La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. »
Arrête-le,
c'est bon.
Oh, la passion. La passion de Laurent.
C'était pas mal.
C'était pas mal. Première info pour voyer au dîner ce soir.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un spécialiste nous apporte un éclairage, Cyprien, sur une actualité.
Et ce soir, c'est l'avenir du foot français qui nous inquiète. Oui, les amoureux de foot sont au plus mal. Céline et Laurent ne dorment plus. Le FC Nantes pourrait disparaître.
L'OM aussi, Cyprien.
Ah, c'est vrai. En fait, on a l'impression que c'est tout le foot français qui vacille. Mediapro, qui avait acheté les droits de la Ligue 1 pour près de 800 millions d'euros par an. Non, pardon, excuse-moi.
N'a pas payé.
Je vous laisse faire la suite, je suis en train de m'étouffer.
Le contrat est rompu, plus de droits télé, plus de diffuseurs. Et pendant ce temps, les clubs se demandent comment ils vont faire. Situation ubuesque, inédite et qui interroge. Alors, pour essayer d'éclaircir la situation, Cyprien.
Eh bien, on accueille Christophe Lepetit, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste au célèbre Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. En tant que fan de foot, comme des millions de Français, je suis supporter de foot, moi aussi. Est-ce que mon club risque de disparaître ?
C'est une possibilité malheureusement parce que on a aujourd'hui deux crises qui se superposent et qui mettent l'économie du football en grand danger. La crise du coronavirus évidemment qui fait qu'aujourd'hui et depuis le début de la saison vous n'avez pas de spectateurs dans les stades ou quasiment pas et donc les clubs n'encaissent plus aucune recette de billetterie. Et puis donc cette crise des droits télé avec le diffuseur principal qui était censé verser 800 millions d'euros cette saison qui eh bien aujourd'hui se retire et donc il faut que la LFP, la Ligue de football professionnel puisse trouver un autre diffuseur, très certainement avec une décote assez importante du montant des droits télé et donc ça veut dire pour les clubs puisque la Ligue vend les droits pour le compte des clubs, et bien des ressources qui vont diminuer de façon très importante puisque les droits télé représentent environ la moitié de leurs revenus annuels.
La moitié de leurs revenus pour chaque club, mais est-ce que ça veut dire que quand même il y a des clubs qui vont être plus vulnérables que d'autres ?
Aujourd'hui, tous les clubs sont en danger, hein, y compris des grands clubs. On parlait de l'Olympique de Marseille, je crois, tout à l'heure dans le lancement du sujet, mais oui. L'Olympique de Marseille est exposé au même titre que le Nîmes Olympique ou Chambly. Et évidemment que derrière, les clubs qui seront le plus à même de passer cette crise sont ceux qui auront notamment des actionnaires capables d'assurer la continuité et la survie de leur club. Et donc, à ce niveau-là, les clubs ne sont pas tous équivalents ou égaux. Je pense qu'il est préférable d'être dans la situation, par exemple, du Paris Saint-Germain, qui est détenu par QSI qui était directement rattaché à l'État du Qatar, plutôt qu'avoir un actionnariat très diffus avec beaucoup de petits actionnaires aux capacités financières limitées.
Voilà, là quand on écoute ce que vous venez de nous dire, c'est quand même, on se demande comment ça va être possible que ça fonctionne avec 20 clubs en Ligue 1 là aujourd'hui. C'est-à-dire que grosso modo, ils ont budgétisé leur année avec ces droits télé qui vont finalement pas toucher.
C'est ça. En fait, grosso modo, c'est comme si un ménage français divisait ses revenus courants par deux, et donc ça veut dire forcément la nécessité de réduire ses dépenses. Ouais. Sauf que ça n'est pas si simple que ça pour un club de football, parce que la principale dépense, c'est la masse salariale, et que les contrats doivent être respectés. On ne peut pas réduire le salaire d'un salarié, quel qu'il soit, de façon arbitraire, sans avoir son accord.
Ça veut dire qu'il faut s'attendre à quoi dans les prochains mois, voire toutes les stars de la Ligue 1 partir à l'étranger
Le mercato d'hiver, par exemple.
Eh ben effectivement, il faut s'attendre à plusieurs choses. La première des choses, c'est très probablement voir des clubs essayer de négocier avec leurs joueurs des réductions de leur rémunération. Certains clubs essaieront de privilégier leurs stars en ne touchant pas trop leur rémunération et essaieront plutôt de jouer sur les petits personnels, c'est-à-dire les joueurs de moindre envergure. Et puis, dans un horizon un petit peu plus lointain, des clubs vont très certainement chercher à faire partir beaucoup de joueurs. On sait qu'on est un championnat de France qui vend ses joueurs, notamment aux clubs étrangers, et donc il y a fort à parier que beaucoup de clubs vont chercher à dégraisser leurs effectifs. Je pense que considérer que nous faisons encore partie de ce qu'on a coutume d'appeler le Big Five, c'est-à-dire ces cinq grands championnats européens, c'est peut-être encore aujourd'hui plus une utopie qu'hier. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes devenus finalement le premier championnat de la seconde division européenne.
Eh ben merci Christophe Lepetit d'avoir allumé la lumière sur les méandres du foot français. Je rappelle que vous êtes économiste au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, et puis on en profite aussi pour avoir une pensée confraternelle pour nos copains de Téléfoot. Merci.
Absolument. À 19h35, vous restez bien là. La suite de On défait le monde en ce vendredi. Vous le savez, c'est la saison 2. Et c'est la deuxième info pour briller au dîner. À tout de suite.
RTL Soir. On défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième de ce soir pour les retardataires de l'émission. Tout à l'heure, c'était Maître Yoda de Laurent Tessier. Cette fois, cette deuxième, Brice, ça concerne la Chine.
Oui, parce que l'administration chinoise de l'aviation civile vient de faire passer de nouvelles directives aux compagnies aériennes pour améliorer les pratiques d'hygiène en cette période de pandémie dans les avions. Alors, il y a les mesures attendues sur ce papier, se laver les mains, porter des gants, porter des lunettes de protection, voire même des blouses, des combinaisons. Mais il y a plus étonnant. Afin d'éviter que le personnel n'attrape ou ne diffuse le virus dans les toilettes des avions, qui est un lieu très exigu où il a été démontré que le virus se propage plus facilement, il est conseillé au personnel navigant de porter des couches jetables pendant les vols, notamment les vols les plus longs, afin de ne pas utiliser les toilettes. Ce qu'on peut dire, c'est une préconisation chinoise pour le moins radicale.
Et on aime la précision des couches jetables, pas des couches lavables.
C'est exactement ce qui est précisé dans le document.
Conseillé, mais pas obligatoire. C'est conseillé,
c'est pas obligatoire.
En termes de gestes barrières, ça va un peu loin, non ?
Un peu loin l'histoire. Deuxième info pour briller au dîner ce soir, Brice, concernant la Chine.
RTL. Le loser de la semaine.
Elle ne rate jamais sa cible au moment de désigner le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, c'est un peu le génie français qui en prend pour son grade.
Oui, car on l'a appris ce matin.
Mauvaise nouvelle pour les groupes français et britanniques Sanofi et GFK qui se sont associés. Les premiers essais sont moins bons que prévu. Leur vaccin ne sera prêt que fin 2021.
Et ça craint, car depuis des mois, entre les labos, ce qui se joue, c'est ça. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le génie français n'est pas fait de sprinter, car dans cette course effrénée, d'autres sont bien loin devant, les Américains.
Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, finalement efficace à 95% selon les résultats complets de leur étude à grande échelle.
95% pour Pfizer et déjà des piqûres chez nos voisins.
Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a commencé. 800 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont déjà disponibles.
Loin devant donc les Américains, mais dans le peloton de tête, on trouve aussi des Russes.
Le vaccin contre le Covid-19, c'est déjà une réalité ici à Moscou.
La Russie a annoncé la mise au point d'un nouveau vaccin, Sputnik.
Et sans parler des Chinois. Et pendant ce temps-là, on le rappelle donc.
Sanofi et GSK prévoient que leur vaccin ne sera prêt qu'à la fin de l'année prochaine. Année 2021, c'est une fille.
Eh oui. C'est un peu fausse la Marseillaise, je vous l'accorde. Et pourtant, qu'est-ce qu'il disait le président de Sanofi France le mois dernier sur CNews ?
En décembre, on va lancer la production. Donc au mois de juin, on aura déjà plusieurs millions de doses.
Ouais. Oh ben non, ce ne sera pas pour le mois de juin, ce ne sera pas pour l'été. Alors, vous me direz que Sanofi n'est pas le seul représentant tricolore. Non, il y a Pasteur aussi, l'Institut Pasteur, du nom de ce grand scientifique pionnier, on le rappelle, de la vaccination. Ils en sont où, Pasteur ?
Nous espérons avoir des résultats de cet essai clinique de phase 1 dans le premier trimestre 2021.
Oui, la phase 1 n'est pas terminée, on l'espère début 2021. Là aussi, on est en retard, loin d'être pionnier, donc, mais français quand même. Alors le chercheur Frédéric Tanguy n'hésite pas à rappeler une morale bien tricolore.
On est en retard, absolument, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, vous savez, c'est... vous connaissez la fable de La Fontaine. Donc on peut être en retard et arriver les premiers quand même.
Bref, vive les tortues, en espérant que pour les vaccins Made in France, la ligne d'arrivée ne soit pas trop loin quand même.
Et Jean-Jacques Goldman disait les derniers sont les premiers.
Ah, c'est pas Céline Dion.
On est passé de La Fontaine
à... C'est Céline Dion, je crois. Hein.
La culture avant tout dans le monde le vendredi soir. On a le jeu et on a surtout un cadeau pour les auditeurs.
Oui, en ces temps moroses, notre plaisir d'offrir n'est égal que votre joie de recevoir. Bon, en gros, on vous offre un cadeau complètement fou dans On défait le monde.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Alors, Greg, réalisateur, et Monsieur Cadeau, avec quoi vous nous faites rêver ce soir?
Oh, j'espère vous faire rêver avec une semaine au ski pour 4 personnes. À Orcières-Merlette, 1850. C'est la station d'Orcières qui se situe aux portes du parc national des Écrins dans les Hautes-Alpes. Mais pour faire du ski et partir tous ensemble, on a besoin de quoi?
Bah, de ski,
de
non
ski.
De ski. Eh bien, très bien. Dans ce cas, je vous offre. Ouais, tout le matériel pour aller skier avec Intersport.
Et les forfaits?
Pour les 4 personnes, les forfaits. Allez, j'installe les forfaits aussi.
Mais on dort où, Greg?
On dort dans une résidence. Eh bien, au pied des pistes, tenez. Voilà. Et ça, c'est pour 4 personnes, je le répète. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur le site www.orcières.com, sachant que ce sera valable toute la saison.
Ouais. Ouais. Ah bah oui, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Ouais. Fameuse question, d'abord, pour y aller.
Ouais.
En début d'émission, Marie Mollet vous a parlé des petits Français à l'école. On m'a écouté cette chanson culte de France Gall, faut trouver la suite.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré...
Ah,
ah, ah. Sacré qui?
C'est ce sacré qui? Jérôme Salomon? Charlemagne? Ou Jean-Michel Blanquer? Vous avez la bonne réponse, 32-10, et on appellera le gagnant. On tirera au sort parmi les bonnes réponses.
Ça monte en gamme les questions.
Vraiment, c'est très culturel.
Ah bah, gros cadeau, grosse culture.
32-10, vos appels, bonne chance à vous. Le standard est accessible à partir de top. Maintenant, il est 19h43.
RTL Soir, on défait le monde.
Le billet retour à 19h43, c'est le droit de suite quand on revient sur une info qui a fait la une et qui disparaît un peu de l'actualité.
Et ce soir, on a voulu vous parler porte-avions. Oui, en mai dernier, la ministre des Armées, Florence Parly, annonçait...
Sur le porte-avions nouvelle génération, nous sommes prêts. Nous avons finalisé les travaux que nous devions finaliser pour permettre une décision. Et donc, les arbitrages devraient être rendus dans le calendrier qui avait été initialement fixé.
Et cette semaine, le président Macron a confirmé...
Le Charles de Gaulle, vous le savez... arrivera à la fin de sa vie en 2038. C'est pourquoi j'ai décidé que le futur porte-avions sera à propulsion nucléaire.
2038, ça fait loin. Donc Brice, grand reporter au service étranger et spécialiste des questions de défense à RTL. Ce futur porte-avions, c'est une arlésienne ou on y est? Ça commence à souder au chantier de Saint-Nazaire.
Alors non, on n'en est pas là, on part pas encore. C'est la première phase, celle qui va s'étendre jusqu'en 2025. On appelle ça la phase de conception. Alors schématiquement, pour l'instant, c'est quels équipements doit-on mettre sur ce navire? Comment les mettons en place? L'armement, les radars, le hangar, le centre opérationnel, mais c'est aussi les salles de bain, les cabines, les restaurants, enfin tout ce qui fait la vie à bord des 2000 marins. Mais alors où on parle, le Pang, c'est son nom, hein, le porte-avions nouvelle génération, le Pang, ce sont juste des dessins sur des ordinateurs d'ingénieurs. Il y a juste une chose concrète, c'est une maquette de coque de bateau avec laquelle des ingénieurs font des essais hydrodynamiques dans un bassin de la DGA, c'est la Direction Générale de l'Armement. En fait, le but, c'est de définir quelle est la meilleure forme possible pour permettre à ce navire qui fera 75 000 tonnes de pouvoir se déplacer à la vitesse souhaitée.
75 000 tonnes, c'est plus que le Charles de Gaulle?
Alors oui, il sera deux fois plus lourd et il sera aussi plus long, 300 mètres contre 260 aujourd'hui.
C'est on se demande comment ça flotte quand même. Hein.
Alors là,
je vais pas vous faire le principe,
c'est le principe de la coque, mais ouais. Reproduite à une échelle, ça vous va comme ça?
Non, mais c'est tellement lourd.
C'est
ça
qu'on appelle à l'heure. C'est d'Archimède.
Archimède, c'est le principe d'Archimède.
Ouais.
La poussée d'Archimède.
Oui, la poussée d'Archimède. Je peux y aller?
Ouais, allez-y.
Ok,
pardon.
Super. Donc 300 mètres contre 260 aujourd'hui. En fait, c'est à peu près les dimensions d'un gros paquebot de croisière. Il sera plus gros notamment parce que les futurs avions de combat, ceux qui succéderont aux Rafales, sont aussi plus gros et plus lourds. Et puis, il faut un peu plus d'espace et de confort pour les marins. Et puis il y avait une contrainte simplement qu'il fallait respecter, c'est la taille des bassins du port de Toulon, parce que c'est là qu'il sera stationné. Pour ne pas avoir à en construire de nouveau, il fallait se limiter donc à 300 mètres, parce que ça coûte très très cher.
Et la construction, concrètement, elle commence quand?
Donc 2025, dans les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, première soudure, Cyprien, pour reprendre votre expression. Ouais. Et là, ça va durer à peu près 10 ans. 2036, normalement, première mise à l'eau, essai à la mer pendant un an et demi, deux ans. Il devrait être prêt pour le combat, donc comme l'a dit le Président de la République, en 2038.
Donc on conçoit un bateau qui va naviguer que dans 18 ans.
Oui, dans 18 ans. En fait, d'abord...
Il peut se passer des choses quand même.
Il se passe... Oui, mais vous l'avez entendu, le Charles de Gaulle sera opérationnel jusqu'en 2038. Non, ça prend du temps d'abord parce que c'est évidemment très complexe. Il y a beaucoup de matériel à embarquer. Et puis quand vous produisez par exemple une voiture ou une cafetière, vous pouvez en produire 3, 4, 5 et regardez comment ça fonctionne. Mmh. Avec un porte-avions, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous en produisez un seul et il faut qu'il fonctionne. Et on sait qu'avec le Charles de Gaulle, il y avait eu deux, trois petits soucis. Et puis, il faut prévoir les évolutions technologiques à venir. C'est-à-dire
c'est-à-dire que certains équipements, notamment des armements, sont en phase de développement mais ne sont pas encore prêts. Ça veut dire par exemple que si un équipement est mis au point en 2050, eh bien il faudra que le porte-avions puisse l'embarquer. Donc il faut réfléchir aujourd'hui à des modifications qui permettront justement de prévoir ces adaptations.
Mais alors, juste, je me permets là, c'est encore utile d'avoir un porte-avions parce que ça coûte quand même très cher.
Alors oui, c'est très cher. Vous allez me demander le prix. Oui. Je vais vous dire plusieurs milliards. Okay. Officiellement, c'est ça le chiffre. On n'a pas de, parce que c'est très très cher, donc pas de chiffre. Les militaires n'aiment pas tellement parler d'argent. Mais il y a des critiques qui disent qu'aujourd'hui, avec les moyens des avions modernes qui volent très loin, qui volent très longtemps, c'est pas forcément très utile de déployer un tel bâtiment. Et c'est vrai que ces avions, des avions français, il y en a au Moyen-Orient, en Jordanie, il y en a en Afrique, au Tchad. Le problème, c'est que pour les baser dans ces pays, il faut des accords avec ces pays et ça peut évoluer dans le temps. Alors qu'un porte-avions, sans autorisation, vous pouvez aller dans toutes les eaux internationales sur le globe et donc vous êtes plutôt tranquille en termes de souveraineté. Et puis, il y a aussi la dimension politique, c'est que lorsqu'un porte-avions apparaît, il y a un symbole fort de puissance militaire et donc un moyen de rester aussi dans la hiérarchie mondiale des grands pays.
Et alors, quels sont les pays qui ont des porte-avions ?
Alors,
pas tous, hein.
Non, pas tous. Il y en a 6, la France, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni, la Russie et évidemment les États-Unis.
Pang, c'est définitif comme nom ?
Non, c'est pas définitif, c'est vraiment un acronyme pour dire porte-avions nouvelle génération, mais il y a 18 ans pour choisir un nom. En général, des noms sont proposés et ce seront les personnes qui seront en charge.
Mais qui va le choisir ?
Ah mais je sais pas.
Parce que par exemple, le président Macron peut en prendre un, mais il sera peut-être plus président dans 18 ans. Enfin, c'est même quasiment
je sûr. Je sais pas si ça se fait dans les deux dernières. En général, c'est vraiment ce que vous faites à la fin. Donc il y a peu de chances que ce soit le président Macron qui choisisse.
Passionnant billet retour signé Brice du génie. Dans un instant, ce sera passionnant ou pas. La troisième info pour briller au dîner avec Céline. À tout de suite.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Pour briller un peu, beaucoup, énormément, on compte ce soir sur Céline. C'est dire. On va parler ski.
Vraiment très, très encourageant, Stéphane. Oui, on va parler ski. Vous savez, les stations pourront peut-être ouvrir le 7 janvier si la situation sanitaire le permet. En attendant, les remontées mécaniques restent à l'arrêt. Et en France, c'est pas rien. Alors, bien sûr, tous les Français vont pas au ski. Bon, il y aura les gagnants de ce soir, mais pour le reste de la population, c'est 8% seulement. Mais la France, c'est bien une terre de ski. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la taille des domaines, car le plus grand est en France. 600 km de pistes pour les trois vallées qui regroupent à la fois Val Thorens, les Menuires, Courchevel ou Méribel. C'est un record mondial. 600 km de pistes, plus de 130 remontées mécaniques. Et le deuxième plus grand mondial, il est où ?
Ben
en France aussi, enfin en tout cas en partie. C'est le domaine
France.
Les Portes du Soleil, Morzine, Avoriaz, Léger, mais aussi Châtel ou Champéry en Suisse. Donc 580 km de piste là et plus de 170 remontées quand même.
Parfait.
C'est donc sur le podium, c'est quand même fou. Deux Français.
Ben, ouais. Un et demi, parce que le deuxième, on se le partage avec les Suisses quand même, pour être tout
deux
à fait
Français,
honnête.
Deux Français. Tout à fait honnête. Céline Landreau, toujours honnête.
Toujours honnête.
La rigueur. Qui m'a fait un lancement tout à l'heure sur le ski en parlant de téléski, alors qu'il en reste 12 en France.
Alors, c'est hyper méprisant, c'est que vous allez que dans des stations avec télésièges.
Tout.
Mais il y a plein d'endroits où il y a encore ce que nous nous appelons
le téléski, c'est le tire-fesse, pardon. Ouais, voilà, c'est ça.
J'adore quand elle est vexée, c'est formidable.
19h52. Marche ou rêve.
C'est votre moment quand on met en valeur vos projets ou vos initiatives les plus originales.
Ouais, tout au long de cette saison, on vous présente des auditeurs qui prennent des décisions radicales. Et donc là, on va parler vélo, on va pédaler, Laurent.
Ouais, Florent, 32 ans, et Kenza, 22 ans, sont en couple. Ils vivent à Tourcoing. Ils vont se lancer au mois de juillet dans un fabuleux défi, refaire le Tour de France de 1938 à vélo. Ouf. Un projet voilà, qui a pour but notamment de sensibiliser aux maladies cardiovasculaires. Ils sont actuellement en pleine préparation. Bonsoir, Florent.
Salut à tous.
Alors Florent, pourquoi souhaitez-vous refaire spécifiquement le Tour de France de 1938 et pas celui de notre année ?
Eh ben en fait, à la base, ça partait d'un simple cadeau d'anniversaire et c'est devenu un objectif sportif de quasiment 5000 km. Donc là, on va refaire tous les bords de la France et tout ça en fait en hommage à mon grand-père qui m'a appris à faire du vélo à 2 ans et demi. Et depuis, c'est parti. Maintenant, je suis à, on va dire, à peu près à 800 km par mois. Et ça va faire qu'augmenter, en fait. Je vais essayer de multiplier les heures de selle d'ici le mois de juillet. Donc là, on va démarrer du nord, faire tout le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et remonter vers Aire-sur-la-Lys le dernier jour pour l'arrivée.
Mais Florent, à la base, vous êtes cycliste ou pas du tout ? Ou vous y êtes mis juste pour ça ?
Je m'y suis mis, on va dire, pour améliorer ma condition physique et perdre du poids, surtout. Et maintenant, c'est devenu vraiment un objectif sportif. Oui.
Ouais, parce que Florent, vous avez souffert d'obésité, vous avez pesé près de 130 kilos à l'âge de 25 ans, donc c'est un défi personnel, mais pas seulement. Vous souhaitez aussi sensibiliser le public sur plusieurs causes ?
Bah voilà, ouais, ça m'a permis, entre autres, de perdre 50 kilos, d'améliorer ma condition de vie, mon alimentation. Donc c'est énorme, en fait, tout ce qu'une simple activité sportive peut apporter.
Oui, mais vous ne serez pas seul, Florent. Est-ce que vous passez votre copine Kenza qui va vous accompagner? On a quelques questions à lui poser.
Salut.
Bonsoir Kenza. Vous serez à bord. Vous serez à bord, Kenza, d'un combi pour ravitailler Florent, c'est ça?
C'est ça, effectivement. Ouais, on va retaper notre Volkswagen combi pour pouvoir être hébergé tous les soirs à moindre coût. Et du coup, moi, je vais être en charge du ravitaillement, etc., pour suivre Florent du coup dans ce périple.
Ouais, et pour réussir votre défi, vous avez lancé aussi une cagnotte solidaire pour l'achat de matériel.
Effectivement, oui, bien sûr. En fait, on a lancé une cagnotte solidaire, donc une cagnotte sur Litchi. Vous la retrouvez sur litchi.com et sur la barre de recherche en tapant Tour de France 1938. Cette cagnotte va nous permettre du coup de financer notre projet, que ce soit sur le matériel, la nourriture, le gasoil. Donc c'est vraiment la cagnotte qui nous aidera à réaliser ce projet le mieux possible, quoi.
Bravo, mais en plus 1938, je suis pas un grand spécialiste de cyclisme, mais c'est les époques où le Tour de France c'était très long et très très dur, quoi. Vous commencez pas avec le plus facile, quoi.
Non, c'est ça. Après, en toute sincérité, c'est moi qui lui ai offert ce cadeau d'anniversaire pour ses 32 ans.
Je voyais qu'il maigrisse encore.
Ouais, forcément.
Tiens, 5000 bornes, vas-y, cadeau.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est allez, mets tes fesses sur le vélo, pédale et voilà, ramène des sous. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, le Tour de France était vraiment long. Contrairement à aujourd'hui, ils passaient par énormément de régions. Leur vélo pesait plus de 20 kilos. Là, actuellement, Florent, je sais qu'on va décevoir beaucoup de personnes, mais il va pas du tout faire le Tour de France de 1938 avec un vélo de l'époque.
Ouais.
Ce sera vraiment
non,
un
mais
vélo,
ça déçoit personne, c'est déjà admirable. Bravo à lui.
Bon, en tout cas, merci. Hein.
C'était super.
Et on pourra suivre vos aventures sur Instagram Tour de France 1938.
Super, super épopée. Donc on suivra tout ça, hein, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr.
Gagnant du soir.
Évidemment, on a un gagnant. Enfin, s'il répond bien à la réponse, à la question. Pascal, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bon, alors avant toute chose, je vous mets la chanson, il faut trouver la suite.
Sacré Charlemagne.
Oui, ouais. Sacré Charlemagne. Une semaine au ski pour 4. Vous partez quand vous voulez, Pascal. Vous savez avec qui vous allez partir?
Ben, je vais partir avec mon épouse et j'ai des enfants, mais par contre, le plus dur, ça va être faire un choix pour pas faire de jaloux.
Alors là, je peux rien pour vous.
Parce que vous avez combien d'enfants?
3.
Aïe.
Il y en a un qui va rester sur le carreau.
Mais c'est votre épouse.
Plus les belles-filles ou les petits-enfants, peut-être. Voilà.
Ah, ben oui, les petits-enfants, c'est bien.
Voilà.
Vous êtes où, Pascal? Dans quelle région, vous?
Moi, je suis en Occitanie, dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, exactement.
D'accord. Eh ben super cadeau pour vous, merci de votre fidélité, bravo.
Merci
pour
infiniment.
La bonne réponse, merci d'être
merci
là.
Merci RTL et merci de votre émission, c'est un pur moment quand on va travailler, ça détend bien.
Ah bah super, bien.
Merci à vous.
On revient la semaine prochaine les amis pour détendre tout le monde, bien
à
sûr.
À la semaine prochaine.
On défait le monde, c'est tous les vendredis soirs. Ciao.
À la semaine prochaine.
On défait le monde sur RTL.